Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Jeudi 18 août,
l'info sur RMC.
Précisément 8h sur RMC, soyez tous les bienvenus. L'information, le journal tout de suite avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Premier témoignage poignant d'une des présumées victimes de Benjamin Mendy. Cette femme accuse le footballeur de violence sexuelle. Nicolas Pelletier qui suit le procès pour RMC sera avec nous en début de ce journal. C'est une information RMC. L'inventeur de l'assurance de téléphone est convoqué au tribunal correctionnel de Paris. Le groupe Indexia est accusé de pratiques commerciales trompeuses. Et puis du football ce soir. Tel Aviv-Nice, match barrage aller de la Conférence League. Les Niçois partent favoris.
On commence donc par ce procès qu'RMC suit avec attention depuis son ouverture.
Celui du champion du monde, Benjamin Mendy. Le footballeur français est accusé par 7 femmes de 8 viols, une tentative de viol et une agression. Ces faits se seraient déroulés entre 2018 et 2021. Son procès se poursuit aujourd'hui à Chester en Angleterre. Nicolas Pelletier, vous suivez ce procès pour RMC. Hier, une première victime présumée s'est exprimée en vidéo.
Il avait ce regard de prédateur. Pendant plus d'une heure, hier, dans un entretien préenregistré, les jurés ont pu écouter le premier témoignage d'une jeune femme qui raconte une tentative de viol au domicile de Benjamin Mendy. Ces faits présumés remontent à octobre 2018, juste après une soirée à Manchester. La jeune femme passe la nuit avec un ami de Benjamin Mendy au domicile du joueur. Au petit matin, elle se retrouve face à face avec l'ancien défenseur dans la salle de bain. Benjamin Mendy aurait commencé à se masturber devant elle. Elle le repousse, mais ce dernier insiste et la projette sur le lit. La jeune femme arrivera à s'en défaire. Elle terminera son témoignage avec cette phrase « J'étais déboussolé, il était sur son propre territoire ».
Et Nicolas, le procès se poursuit aujourd'hui avec un deuxième témoignage. À quoi faut-il s'attendre?
Pour la première fois depuis le début de son procès, Benjamin Mendy va se retrouver en présentiel face à une des 7 plaignantes. Les faits qui seront exposés aujourd'hui renvoient à une soirée d'octobre 2020 lorsque Benjamin Mendy aurait violé 3 fois dans la même soirée une jeune femme. Cette dernière sera présente au tribunal de Chester pour raconter les faits. Ce témoignage sera suivi d'un contre-interrogatoire mené par l'avocate du joueur.
Merci Nicolas Pelletier.
RMC 8h02, de nombreux départements ont été touchés par de violents orages hier soir.
Une conséquence des coupures d'électricité en Auvergne-Rhône-Alpes, 10 000 foyers concernés hier soir. Ce matin, dans l'Ain et dans la Loire, 1 millier de foyers sont toujours sans électricité. Le courant devrait être rétabli dans la matinée, au plus tard en fin de journée. Cette nuit, les villes de Marseille et Castille ont été traversées par des torrents d'eau. Alors, par précaution, face aux orages, le département interdit l'accès aux plages. Le temps de réaliser des analyses de la qualité des eaux. Avec les fortes pluies, le ruissellement d'eau usée vers la mer peut entraîner des contaminations. Toutes les plages surveillées sont concernées. Reportage de Clémence Fournival à Marseille pour RMC.
Il est interdit de se baigner, y compris de mettre ses petits petons dans l'eau.
Sur la plage des Catalans, Jody et son amie ont la mauvaise surprise de découvrir qu'elles ne peuvent pas se baigner.
J'étais pas au courant du tout et bah écoutez, oui je suis un petit peu déçue, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire autre chose.
Venue en famille, Lilia est très frustrée par cette situation.
On était vraiment très contents en fait, de voir la mer. On est en vacances, mais malheureusement... On ne peut pas profiter de la mer.
Quelques mètres plus loin, sur les rochers non surveillés, Djilali, venue de Grenoble, s'est quand même offert une petite baignade.
Elle est bonne, franchement, on n'a pas l'air qu'elle est polluée. Je ne sais pas ce qui se passe, la situation à Marseille. Il y a un nocif, franchement, ça reste de la mer.
Pour Victor Hugo Espinoza, président de l'association Ecoforum, la fermeture des plages est nécessaire car la qualité de l'eau n'est pas propice à la baignade.
Il peut avoir des restes fécales, il peut avoir des bactéries, pas mal de métaux lourds, il peut avoir beaucoup, beaucoup de pollutions qui sont néfastes et pas l'homme.
Ceux qui braveraient l'interdiction sur les plages surveillées s'exposent à une amende de 38 euros.
Clémence Fournival à Marseille pour RMC. On l'apprenait hier à Marseille aussi, nouveau drame de rodéo urbain. Un jeune homme de 19 ans a perdu le contrôle et percuté un poteau mardi soir. Il a succombé à ses blessures. En déplacement dans un commissariat à Créteil hier, le ministre de l'Intérieur a défendu son bilan en matière de lutte contre ces rodéos. 2200 personnes interpellées et 1800 scooters saisis depuis le début de l'année. Mais pour Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme, les contrôles ne suffisent pas. Il faut faire de la prévention sur le terrain. Il était notre invité sur RMC ce matin.
Dans les années 70, on avait des rodéos sauvages également sur Rungis tous les vendredis soirs. On avait même des courses sauvages qui étaient organisées à l'époque. Le gouvernement a fait le choix de créer un site de pratique dédié en région parisienne, qui est le circuit Carole, avec une prescription sociale qui consiste à ouvrir ce circuit de vitesse un week-end sur deux à tous les pilotes de la région, et ça fonctionne. Donc il y a des réponses. Il y a un volet répressif, je crois qu'il faut absolument pas se voiler la face là-dessus, il faut être très strict. Mais à côté de ça, il faut aussi offrir des sites de pratique de proximité pour faire en sorte que l'on puisse aussi avoir un discours construit auprès de ces jeunes.
C'est une information RMC. L'inventeur de l'assurance de téléphone, le groupe Indexia, sera jugé, ainsi que son fondateur.
Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. On vous en avait déjà parlé à de nombreuses reprises sur RMC. Des centaines de clients se plaignent de prélèvements bancaires abusifs. Impossible pour eux de résilier leur contrat d'assurance. Johanna Chabas, il y a donc un procès dans cette affaire.
Oui, le parquet se base sur une enquête menée par la répression des fraudes qui a transmis ses conclusions à la procureure de la République de Paris. Des centaines de consommateurs se sont signalés dénonçant les méthodes d'Indexia, l'ancienne SFAM. Et nous, à RMC, on a aussi reçu de nombreux témoignages d'auditeurs. La belle-mère de Patricia a payé à son insu plus de 2 500 € sur 3 ans. Pour Bruno, c'est plus de 4 300 € qui ont été prélevés par la SFAM. D'autres nous décrivent à quel point c'est difficile de résilier leur contrat d'assurance. Si le groupe et son fondateur, Sadri Fegaye, le plus jeune milliardaire de France, sont convoqués, c'est que le parquet de Paris considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour juger cette affaire. Les clients qui s'estiment floués vont donc pouvoir se porter partie civile au procès et demander réparation. La SFAM a déjà été sanctionnée en 2019 pour pratiques commerciales trompeuses. Elle a payé une amende de 10 millions d'euros à la répression des fraudes. Amende qui, selon les témoignages que l'on reçoit, n'a pas mis fin à ces mauvaises pratiques. Cette fois-ci, la justice pénale va trancher.
Merci Johanna Chabas pour RMC. L'Ukraine doit se préparer à tous les scénarios concernant la centrale de Zaporijjia, annonce du ministre ukrainien de l'Intérieur. Cette centrale nucléaire la plus grande d'Europe est la cible de plusieurs frappes depuis le début du mois. Le secrétaire général de l'ONU sera en Ukraine aujourd'hui. Il doit rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Nous sommes à moins de 2 semaines du mois de septembre. Le temps est venu de penser à la rentrée, une rentrée plutôt angoissante pour certains. Après des vacances marquées par une actualité compliquée, guerre en Ukraine, inflation, incendie à répétition. Compliqué en effet d'attaquer une nouvelle année avec ces mauvaises nouvelles, Mathieu Limongi.
Dans les rues encore, beaucoup de soleil, beaucoup de monde et toujours cette aire de vacances. Pourtant, ça y est, septembre approche et c'est une source d'anxiété pour Lucille.
D'attaquer une nouvelle année, c'est avec tout ce qui s'est passé récemment. Je trouve ça très angoissant. Je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus angoissant. Ouais. Je pense surtout aux futures générations.
Et parmi cette nouvelle génération, il y a Louis. S'il s'est coupé des mauvaises nouvelles pendant les vacances, pour lui, la rentrée rime avec retour à la réalité.
L'avenir est très incertain à cause de ça. Je suis bien plus perdu et je ne sais vraiment pas comment prévoir mon année parce que je ne sais pas comment le monde va évoluer. Donc je dois avouer que j'ai un peu du mal à me projeter sur l'avenir.
Symptomatique de ces deux dernières années, la difficulté à se projeter peut être un signe de mauvaise santé mentale. Un signal qui doit alors alerter les personnes concernées, selon la psychologue Johanna Rosenblum.
À partir du moment où on est submergé, il faut pouvoir absolument limiter les sources d'informations, mais aussi compenser par des bons moments en famille, des bons moments où on s'occupe de sa santé mentale, par de la méditation, quelque chose qui viendra réguler les émotions négatives.
À l'approche de la rentrée, la psychologue recommande également de ne pas minimiser ses angoisses et d'en parler à son médecin traitant.
Reportage de Mathieu Limongi à Bordeaux.
Alors comment aborder cette rentrée sereinement après cet été particulièrement lourd ? Le professeur Pellissolo, qui est psychiatre, sera mon invité à 8h40. On parle de notre morale ce matin sur RMC.
RMC 8h08, 3 nouvelles médailles au championnat d'athlétisme à Munich, dont 2 aux 110 mètres et l'argent et le bronze. Le vice-champion européen Pascal Martino Lagarde était à quelques millimètres de l'or. L'écart est à peine perceptible sur la photo finish, mais c'est finalement l'Espagnol Asier Martinez qui a remporté la course. Un scénario qui fait sourire le Français.
Le scénario est beau et le scénario est similaire au dernier championnat d'Europe. Je suis arrivé avec le maillot jaune en battant Sergei Shubenkov sur la ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, le scénario, c'est justement l'inverse. C'est pas moi qui a coupé la ligne en premier. Cette fois-ci, c'est Martinez, on peut pas gagner tout le temps. Et j'ai entendu que c'était un truc comme 1 ou 2 millièmes. C'est rien de chez rien, de chez rien. On parle même pas de performance, on parle limite de chance. Aucune déception, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. Vice-champion d'Europe.
Des médailles aussi à Rome pour le dernier jour des championnats de natation. Ça faisait 10 ans que la natation française n'avait pas réalisé une telle performance en championnat d'Europe. L'équipe de France rentre avec 13 médailles dans ses valises, 3 médailles obtenues hier, dont 2 d'argent pour le relais 4 nages hommes et femmes. Et du football ce soir avec le match de barrage aller de Ligue Europa Conférence entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice. Avec le statut de favori sur les épaules, les joueurs de Lucien Favre devront impérativement élever le niveau après un départ compliqué en Ligue 1.
Difficile de dire ça. Logiquement, on joue dans le championnat de France, donc on va nous taxer de favoris. Mais moi, j'ai vu les deux matchs contre Aris Salonique où Tel Aviv était meilleur qu'eux. Il y a des très très bonnes choses, il y a des très bons éléments dans cette équipe. On veut continuer, on veut atteindre les poules et on veut absolument se qualifier, quoi.
Le match est à 19h ce soir à suivre en direct sur RMC.
C'était le journal d'Alexandra Sirgan sur RMC. Il est 8h10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre le débat du jour. Comment lutter contre les rodéos urbains? Davantage de contrôle ou de la prévention? Votre avis nous intéresse. Venez débattre avec le policier Abdoulaye Kanté. Il sera face à vous dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Et avant cela, vos réactions sur Direct Studio ce matin. On parle donc des rodéos. Vous avez été très attentif à l'intervention de Mehdi Ben Safi, directeur de l'association Synergie Family, qui oriente les jeunes vers des circuits homologués en dehors de la ville de Vaux-en-Velin. Patricia souhaite notamment réagir. Elle habite sur place à Vaux-en-Velin. Et selon elle, cette initiative n'a rien changé. Ça n'a pas permis de stopper le phénomène. Elle y est toujours confrontée. Je ne crois pas à une initiative qui vise à proposer à ces jeunes de faire de la moto dans un endroit spécialisé. Ces jeunes sont irrespectueux. Ils n'ont peur de rien. Il faut les sanctionner, trouver de véritables moyens de les décourager, nous dit un autre auditeur ce matin sur Direct Studio. Thierry nous dit « Mon fils, lui, va sur un circuit pour assouvir sa passion, mais ça suppose d'accepter certaines règles. Je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à le faire. » Vous continuez à réagir.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Et 8h14 sur RMC et sur RMC Story. Tout de suite, c'est vous qui avez la parole.
Face à vous.
Vous avez la parole au 32-16 avec cette question que nous vous posons face aux rodéos urbains. Répression ou prévention? Quelle solution? Le ministre de l'Intérieur était en déplacement à Créteil hier. Il a promis des contrôles renforcés. Venez nous dire si vous êtes confronté à ces situations, à ces rodéos dans les quartiers qui ont provoqué ces derniers jours un certain nombre de drames. Est-ce que la répression est suffisante? Est-ce que la police vous semble efficace? Faut-il proposer, comme nous le disaient nos invités à 7h40, des actions de prévention? On en parle tous ensemble. Et pour dialoguer avec vous ce matin, un policier, c'est Abdoulaye Kanté. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous exercez dans les Hauts-de-Seine. Vous avez publié « Policiers, enfants de la République » chez Fayard. Merci de venir dialoguer avec les auditeurs d'RMC. On est au 32-16 avec Adam. Bonjour Adam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le Gard. Vous êtes confronté vous-même à des rodéos urbains autour de chez vous?
Oui, ça peut arriver. Bon, je suis dans un petit village, mais ça arrive aussi au parc communal, par exemple. Alors c'est strictement interdit, hein, les deux roues. Bon, après moi je pense qu'il faut pas, enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi on est là à essayer de chercher des solutions, puisqu'il y a déjà des solutions qui existent. Ça s'appelle la loi, tout simplement, hein, c'est interdit. Quand on parle d'en plus de gamins de 13 ans, alors qu'il faut au minimum 14 ans pour conduire un deux roues, je parle sur route ouverte, hein, je parle. Et un cross, en sachant qu'un cross, il est pas, on peut pas l'assurer sur route ouverte.
Parce que c'est une solution, c'est la loi, ça veut dire faire appliquer la loi. Est-ce qu'on l'a fait appliquer?
Non, j'ai pas l'impression, parce que le problème, c'est que maintenant, si on dit quelque chose, on va montrer la police du doigt, ou puis comme il disait tout à l'heure, s'il y a un accident pendant une poursuite, ça va être la faute des policiers parce que ils ont stressé la personne ou ils l'ont fait fuir, enfin. Donc c'est compliqué, mais je sais pas, moi quand j'étais gamin on avait les mobylettes, si on n'avait pas le casque, on se prenait une amende, on se faisait arrêter et puis voilà quoi.
Ouais, vous avez l'impression que là la police n'intervient plus.
Ben non, parce que il n'y a plus le respect de toute façon de la police, malheureusement.
On va entendre ce que Abdoulaye Kanté peut vous répondre là-dessus, puisque vous êtes vous-même policier. Est-ce que la police est finalement impuissante face à ces rodéos à répétition?
Bon, je ne dirais pas qu'elle est impuissante. Après, je vais venir sur votre titre. Prévention ou sanction, je dirais les deux. Il faut évidemment aussi, prévenir, essayer d'expliquer à ces jeunes que, évidemment, cette pratique, elle est interdite et aussi qu'elle peut tuer. Mais la sanction aussi doit être aussi effective. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut savoir que les rodéos, en fait, est un signe, en fait, d'appropriation de territoire par certains voyous. Donc, c'est bien au-delà de ça, parce qu'il faut savoir qu'ils exercent aux alentours de lieux où il y a du trafic de stupéfiants, de ce qui rend aussi notre tâche un peu difficile, et ça se passe aussi en milieu urbain, donc dans les cités. Maintenant, il y a une loi qui est sortie le 3 août 2018, donc qui explique que c'est un délit, donc qui est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Jusqu'à 5 ans même de prison, mais quelles sont les sanctions réelles aggravantes.
C'est pour les sanctions aggravantes. Donc voilà, ce sont les sanctions aggravantes. Donc ce qu'il faut, pour moi, ce qu'il faut exactement, c'est que dès qu'il y a identification de ces auteurs, donc confiscation immédiate et sur décision de l'autorité de justice, destruction. Parce que si vous ne détruisez pas ces engins, forcément, ils vont recommencer. Et on le voit, comme le dit votre auditeur, c'est que, oui, ça pourrit carrément le quotidien de ces personnes. Parce que quand vous expliquez que, voilà, il y a des... Même aussi, c'est une pollution sonore. Voilà, c'est une réalité. Quand on devait
Abdoulaye Kanté, le problème, c'est que ce qu'on entend, et on a même un policier qui nous a appelé tout à l'heure sur RMC pour nous dire, de toute façon, nous, on a la consigne de ne pas intervenir, de ne pas engager de course-poursuite quand un rendez-vous arrive.
Comme disait votre auditeur, c'est ce qui rend aussi un peu plus, parce que la tâche difficile, parce que vous savez qu'un rodéo, c'est prendre des risques aussi incommensurables, parce que ça peut être dangereux pour le conducteur lui-même ou pour autrui. Autrui, c'est l'environnement qu'il y a autour, et aussi nous, en tant que policiers, parce que aussi on peut prendre des risques, on peut aussi être accidenté à cause de prendre des risques incommensurables comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Certains voulaient aussi expérimenter le contact tactique, ce qu'il y a en Angleterre. Et cela, évidemment, si on doit le faire ici, c'est qu'il faut que nous, policiers, on ait une forme de protection juridique. Parce que
ça revient à renverser carrément le scooter. Ça a fait effectivement
parler. Et effectivement, donc, c'est ça le souci. C'est que nous, il faut aussi à la fois des moyens, c'est-à-dire des effectifs, mais aussi la formation qui va avec et la protection juridictionnelle. Parce que c'est bien beau de vouloir, on va dire, intervenir, à essayer d'interpeller un deux-roues non casqué aussi, qui sont des personnes qui sont démunies de permis, et aussi des fois ce sont des motos volées, la plupart du temps. Donc c'est vrai que
Il faut pas que ça mette à risque les policiers. Restez avec nous, Abdoulaye Kanté. On est avec Pascal également au 32-16. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Haute-Savoie. Le problème se pose aussi là-bas?
Alors, le problème, c'est qu'on parle que des motos, mais nous, on a un parking au champ. Et je peux vous jurer que c'est les voitures. Ce week-end, il y a eu 111 verbalisations. 111. Mais le problème plus profond que ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais remercier RMC et BFM, c'est que si vous n'étiez pas là, on n'en parlerait pas. On dit toujours les médias, mais heureusement que vous êtes là. Ça, il faudrait aussi le souligner. Le problème, il est plus profond que ça. Je pense qu'il n'y a plus de respect déjà de la police. Moi, je suis un ancien délinquant, hein, je vous le dis, hein, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Mais maintenant, rentrer en prison, c'est comme si vous rentrez dans un magasin. Ça ne fait plus peur. La police ne fait plus peur. Il n'y a plus le respect de la police. Et le problème, il est là. C'est qu'il y a l'éducation. Le problème, il est qu'on n'a plus de respect de la police. Moi, je suis revenu dans le droit chemin. Mais le problème, il est que...
Mais c'est quoi la solution, alors? C'est la fermeté absolue?
Oui, moi je vous le dis, moi je suis d'origine corse, hein. Je suis moitié italien, moitié corse, je vais vous dire un truc. Le problème, il est, quand je vois, excusez-moi de revenir aussi sur les médias, mais quand je vois que quand les médias font leur travail, ils se font cracher dessus, taper dessus, moi j'ai 58 ans aujourd'hui, jamais j'ai vu ça de ma vie, il n'y a plus de respect de l'autorité. Mais le problème, excusez-moi, après j'ai fini, le problème il est aussi plus loin, c'est que l'État ne montre pas l'exemple. Quand vous voyez que les politiques, excusez-moi, ça n'a peut-être rien à voir, volent, ou alors mettre les gyrophares à tout va, ou plein de
alors
choses.
C'est un autre sujet, Pascal. On va essayer de rester, sur les rodéos. Merci beaucoup pour votre appel. On entend votre appel à plus de fermeté. Je voudrais qu'on donne la parole à Mohamed, qui est dans le Val d'Oise. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RMC dans le Val d'Oise. Ouais. Vous n'êtes pas très loin de Pontoise, là où il y a eu cet incident avec cette petite fille qui a été très grièvement blessée.
Oui, effectivement, ça c'est un fait qui est quotidien, on va dire. Par rapport aux jeunes, on n'a pas assez de dispositifs pour qu'ils fassent de moto. On essaye, nous, en tant que grands de quartier, de les sensibiliser. Mais c'est difficile parce que quand on parle avec eux, ils nous disent on n'a pas d'endroit, on ne sait pas où en faire. Et ça devient le phénomène se multiplie de plus en plus.
Mais est-ce qu'ici, ils avaient des lieux, comme nous le disaient nos invités tout à l'heure à 7h40, si on leur mettait à disposition des lieux plus sécurisés pour faire, par exemple, de la motocross, mais avec un casque, dans des conditions de sécurité, encadrés, vous pensez que ça pourrait fonctionner ?
Il y a des associations qui commencent à le faire là, de plus en plus. Et on voit la police quand ils viennent et qu'ils voient qu'on est équipé, qu'on a un gilet, qu'on a des bottes, qu'on a des casques, qu'on apprend vraiment la moto dans des bonnes façons, des bonnes conditions, qu'on n'est pas sur la route. Oui, ça, c'est même les policiers sont contents de voir cet effet-là.
Mais ça marche auprès des jeunes. Ensuite, ils arrêtent les bêtises.
Particulièrement, oui, ça marche parce que moi, je parle avec des jeunes de mon quartier quand je leur explique ça parce que c'est vrai que nous, moi, maintenant, je suis papa, j'ai des enfants, je pratique encore la moto sur terrain et c'est pas la même façon de voir la moto sur le terrain et sur la route.
Je voudrais juste intervenir par rapport à Mohamed, pardon de vous couper.
Allez-y, oui, Abdoulaye Kanté.
C'est une forme de bonne volonté, Mohamed, évidemment, d'expliquer aux jeunes qu'il y a des terrains qui peuvent exister. Certains camps, par contre, on ne va pas se raconter l'histoire que quand ils vous disent que oui, mais on ne sait pas où en faire, etc. Le problème est bien au-delà. Je me rappelle aussi que voilà, il y a aussi une forme de challenge parce que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux où certains se filment et pour narguer les policiers, parce que voilà, quand ils mettent sur Snapchat, sur différents réseaux pour essayer de montrer que oui, voilà, vous avez vu, les policiers ne nous ont pas attrapés. C'est ça aussi la réalité. Mais après, je pense aussi qu'effectivement, oui, il y a aussi des associations qui essayent de faire l'effort de pouvoir donner des terrains à ces jeunes qui n'ont pas de moyens de pouvoir pratiquer cette forme de moto. Mais quand on voit ce qui se passe réellement, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune intention, parce que je rappelle que ce sont des personnes qui n'ont pas de permis, ce sont des mineurs, et des fois, ce sont des motos qui sont volées, non homologuées. Donc oui, là, je pense qu'il faut être un peu plus ferme, mais je vous rejoins. L'éducation doit se faire au plus tôt pour détourner les jeunes de cette pratique. Pour
moi, voilà, les deux en même temps, la répression et la prévention. Merci pour votre témoignage, Abdoulaye Kanté, policier. Je remercie également Adam, Mohamed et Pascal qui ont composé le 32-16 pour faire vivre ce débat ce matin sur RMC. Débat qui continue sur l'appli RMC Direct Studio pour toutes vos réactions. 8h24.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Ce matin, on rouvre le dossier de Marina. Son refuge animalier à Céret dans les Pyrénées-Orientales est menacé.
Oui, son refuge accueille des chiens, des chats, des lapins et des chevaux. Et c'est le seul de toute la région du Val-Espire, au cœur du Roussillon. Marina est installée depuis plus de 3 ans sur un terrain qui appartient à la mairie. Elle a eu l'accord de l'ancienne équipe municipale. Mais quand on la rencontre en janvier, elle vient de recevoir un courrier de la commune qui lui demande de quitter les lieux avant le 30 juin. Pour Marina, c'est incompréhensible vu la popularité de son refuge.
Ce matin, par exemple, j'ai eu un abandon de chien. Demain, j'ai un abandon de chien de 9 ans. On est tout le temps appelés, que ce soit pour les abandons ou autres, et les adoptions aussi également. Les gens viennent énormément au refuge adopter les animaux du refuge. En plus, il y a les écoles qui viennent ici, les maisons de retraite qui viennent ici. Tout le monde est attaché au refuge. Ça a été fait par notre cœur en fait. Hein. On a tous relevé nos manches et on a tous construit ce refuge. Je trouve triste de la part du maire. Il y a les services sanitaires qui sont venus. Tout est aux normes, on est OK partout. Il devrait plutôt être content d'avoir ça sur sa commune.
Alors, elle devait quitter les lieux au 30 juin. On est au mois d'août. Qu'est-ce qu'il en est ? Où en est-on ? Vous avez pris des nouvelles ?
Oui, on a pris des nouvelles et Marina n'a pas dû partir. Elle est toujours sur place. En fait, son avocate s'est rendue compte que la mairie a fait une erreur. Lorsqu'elle a demandé au refuge de quitter les lieux au 30 juin, elle a envoyé le courrier de mise en demeure trop tard pour qu'il soit valide. Donc finalement, le refuge est en sursis. Mais la mairie pourrait retenter une procédure d'expulsion, cette fois-ci dans les bons délais. Donc Marina est toujours très inquiète à l'idée de devoir un jour partir.
J'ai très peur pour mon refuge, j'ai très peur pour mes animaux. Ce refuge, c'est le seul dans le Val-Espire. On l'a construit avec le cœur, j'ai mis toutes mes économies, j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu mes voitures personnelles. Les animaux ont extrêmement besoin de ce refuge-là. C'est pas possible, quoi.
L'avocate de Marina, maître Camille Magna, a déposé un recours pour que le refuge soit reconnu comme un service public et donc qu'il soit protégé. Marina, elle, de son côté, cherche un autre terrain sur lequel elle pourrait s'installer, mais pour l'instant, tout est trop cher. Elle espère donc compter sur la mobilisation citoyenne qui est toujours aussi forte pour sauver ce refuge. Deux pétitions circulent, l'une signée par 50 000 personnes, l'autre par 40 000.
Voilà, vous allez évidemment continuer à suivre ce dossier comme tous les autres. Si vous avez besoin d'aide, vous continuez à nous écrire et vous écrivez à l'équipe d'RMC S'engage pour vous sur cette adresse mail rmcpourvous@rmc.fr. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. L'équipe va regarder et vous rappeler. Dès lundi, Apolline Matin revient avec Apolline de Malherbe. Évidemment, c'est la rentrée. Nouvel horaire pour RMC S'engage pour vous. Ce sera à 7h10 avec Amélie Rosic. Johanna Chabaz, vous serez là aussi avec Élise Dangean pour traiter tous les dossiers qui nous parviennent. Merci à vous. 8h27.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.